Pauline Pucciano, Paradict, 9 mars 2072. Hystérectomie d'Elze Costa, la secrétaire générale veut donner l'exemple. La hausse démographique prévue pour 2072 serait dramatique pour l'espérance de vie de l'espèce. Recherche spatiale, pourquoi l'infini est une impasse? Ce fut un dimanche. Ce détail ne manqua pas de retenir l'attention d'Abel, qui y vit comme une façon de perpétuer la tradition de la réunion familiale. Il fut prévenu par un coup de téléphone de Karl Courseul. Elze, à cette période, ne parlait quasiment plus directement au téléphone à personne. Abel regretta qu'un tel événement lui fût rapporté par la bouche neutre et le langage de circonstances de Courseul. Il eût préféré entendre une vraie douleur, l'ébauche d'un cri ou d'un pleur. Mais il se dépêcha de se rendre au domicile de Francis, après avoir laissé dans le paradict un message pour Alvar, qui était quelque part dans les Cévennes et ne rentrerait pas pour ce père qui ne l'avait jamais aimé. Lorsqu'il arriva dans l'appartement familier, il constata avec une certaine surprise, en voyant les agents de sécurité à l'entrée, qu'Elze était déjà là et qu'elle avait déjà donné congé à l'aide-soignante. Des membres de son équipe étaient là également, discrets, dans un coin du salon, commodément installé. Abel les salua de loin. Depuis combien de temps était-il arrivé? Depuis combien de temps Francis était-il mort? Elze était au chevet de leur père, qui était étendu, paisible, sur son lit, déjà revêtu d'une chemise blanche, si amidonnée qu'elle paraissait en carton. Abel, sur le moment, n'éprouva rien, devant le corps roide de son père. Il était perturbé par quelque chose, une chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Elze était vêtue de noir, déjà. Elle avait les yeux comme des fontaines rougies, dont un flot de larmes continues s'écoulait silencieusement. Abel l'embrassa, et elle eut un hoquet de douleur en le serrant dans ses bras. « Alvar n'est pas avec toi ? » demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Non, » dit laconiquement Abel. « Je ne sais pas où il est, je n'ai pas réussi à le joindre. »«
Tu savais qu'il avait démissionné ?»«
Oui. » Elze parut hésiter à ouvrir le chapitre « Pourquoi ne m'en as-tu rien dit ?» Puis ses yeux se posèrent sur Francis, sévères et empesés, et ses larmes redoublèrent, étonnamment abondantes et sincères. Abel avait l'impression d'un décalage infime entre la scène qu'il était en train de vivre et ce qu'elle aurait dû être, comme s'il avait soudain été projeté dans un univers parallèle. Il s'assit sur un fauteuil et affecta de se recueillir, mais ses yeux fixés sur Francis ne le voyaient pas. Il réfléchissait avec toute la vitesse dont il était capable. Tout paraissait légèrement faux ou orchestré. Le mort était trop digne, trop bien habillé. Elze pleurait depuis trop longtemps. Abel n'osa pas demander à quelle heure il était mort, mais il toucha la main de Francis qui était encore souple et tiède. Il était mort moins d'une heure auparavant. Comment cela était-il possible? « C'est si triste, » dit-il au bout d'un moment. À nouveau, Elze redoubla de pleurs. « Ça fait un tel vide, » dit-elle, « et je me dis que j'ai été si absente ces derniers mois. »«
Ce n'est pas de ta faute, Elze, tu as tout géré au mieux pour qu'il soit bien. »
J'aurais dû aller le voir plus souvent. Il a toujours été si gentil avec moi.
Tu es la secrétaire générale. Ta famille passe après tes fonctions. C'est dur, mais c'est ainsi.
Elze semblait un peu réconfortée par ses paroles.
Je suis sûre que ça vaut mieux comme ça, pleurnicha-t-elle.
Abel n'était pas sûre de comprendre.
Mieux qu'il soit mort ? Demanda-t-il.
Au moins il n'est plus seul. Il n'est plus seul.
Abel attendit un moment avant de répondre. Le vieil homme allongé dans son costume tout neuf lui paraissait bien seul, au contraire. Mais il n'était pas seul, Elze. Il avait son aide-soignante qui s'occupait bien de lui, et j'allais le voir régulièrement.
Je m'inquiétais tellement pour lui, gémit Elze. Parfois ça m'empêchait de me concentrer. Je l'imaginais là, dans son appartement, en train d'errer. C'était insupportable.
Abel se tut. Une rougeur lui était venue aux joues, une rougeur de honte. Sa sœur lui faisait honte. Ou bien c'est lui qui avait honte d'être son frère. N'était-elle pas en train de lui faire comprendre qu'elle préférait qu'il soit mort pour qu'elle pût enfin cesser de s'inquiéter pour lui? Comment pouvait-elle prononcer ces mots tout en versant ce torrent de larmes? Il se replongea dans la contemplation de Francis, et cette fois, il le vit. Allongé, désespérément horizontal, les joues creuses, les lèvres et le nez pincés, les yeux clos. Tous ses principes sacro-saints, ses admirations et ses colères, ses injustices et ses tics verbaux, gisaient là,
réduit au silence. Francis Costa n'était plus que cette statue de lui-même, ce commandeur impérieux, impuissant. Abel avait des souvenirs qui commençaient à affluer, mais il les contint et, bridant sa mémoire, il laissa libre cours à son imagination. Il voyait Francis vêtu différemment, comme toutes ces dernières semaines, avec des vêtements plus décontractés qui ménageaient ses démangeaisons. Il l'imaginait en train d'assommer son aide-soignante de remarques sans suite, ou bien en train de se déplacer sans but dans l'appartement, comme cela lui arrivait de plus en plus souvent. Peut-être était-il même plongé dans le paradicte, devant le simulacre de ses enfants, hypnotisé. Et l'imagination d'Abel lui dépeignait quelque chose qui lui paraissait plus proche de la vérité que la scène à laquelle il participait, hic et nunc. Il imagina Elsée arrivant dans l'appartement, d'abord seule, puis accompagnée de tous ses valets, qui s'étaient chargés de renvoyer l'aide-soignante malgré ses protestations. Elle avait sans doute été particulièrement gentille avec son père. Il la voyait en train d'étreindre longuement le vieil homme, avec des paroles d'amour. Lui, peut-être, ne l'avait pas reconnue, ou avait montré des signes de confusion. Elle avait peut-être poussé le rôle de la fille parfaite jusqu'à lui préparer du thé, et puis Karl Courcelles lui avait fait un signe de la tête. Un signe presque imperceptible qui disait à peine « il est temps ». Et elle avait demandé à son père de se changer, en prétextant une occasion quelconque. Elle lui avait fait mettre sa plus belle chemise, et elle lui avait demandé de s'allonger dans son lit. Alors quelqu'un, sûrement pas elle, avait sans doute administré une petite piqûre à Francis, tandis qu'elle lui parlait ou l'embrassait. Karl Courcelles l'avait peut-être appelé, lui, Abel, alors que Francis n'était pas encore mort. Ce fantasme avait la puissance d'une révélation. Abel ne pouvait s'en détacher, ni cesser de le ressasser pour en admirer tous les détails. Elle s'était vêtue en noir le matin même, avant de partir. Elle avait peut-être commencé à pleurer sur le trajet qui l'amenait ici. Et la scène qu'il était en train de vivre ne lui paraissait plus décalée, mais vertigineuse. « Comment est-il mort ? » demanda-t-il à sa sœur d'une voix blanche. « Je ne sais pas exactement, » balbutia Elsée. L'aide-soignante m'a appelé tout de suite et nous avons fait aussi vite que nous avons pu. Elle est partie ?
Oui, elle ne souhaitait pas s'attarder.
Abel n'en demanda pas davantage, mais il fut intimement convaincu à partir de cet instant que Terence n'avait jamais fait d'AVC. Elsée faisait simplement advenir ce qu'elle désirait, depuis qu'elle en avait la puissance. Elle était par-delà la loi, le bien et le mal, dans une sphère solitaire et glacée, où son pouvoir, comme une malédiction, pliait le réel à sa volonté. C'était immense et effrayant, une idée trop vaste pour qu'on pût en peser toutes les conséquences. Abel déboutonna le col de sa chemise et se rendit à la fenêtre pour prendre l'air, sous le regard suspicieux d'un agent de sécurité qui n'osa cependant pas l'en empêcher. Puis il s'approcha de Karl, de l'air d'un homme qui maîtrise la situation. « Comment allez-vous communiquer sur le décès de mon père ? » demanda-t-il. « Eh bien, j'allais justement vous proposer à vous et à Elsée une idée un peu audacieuse. J'hésite à vous la soumettre. »«
Laquelle ?»«
Eh bien, comme elle souhaite déjà montrer l'exemple pour l'hystérectomie, je me disais que peut-être elle souhaiterait également présenter ce décès comme un choix concerté par la famille. » »«
Une sorte d'euthanasie, » dit Abel en hochant la tête.
« En quelque sorte. » »« J'ai besoin d'y réfléchir. » Les larmes, cette fois, n'étaient pas loin de ses yeux, et le soupir qui sortit de sa bouche lorsqu'il retourna à la fenêtre ressemblait à un sanglot. En collaborant avec Elsée, il n'avait jamais imaginé jusqu'où elle l'emmènerait. Il n'avait jamais imaginé qu'il devrait assumer de couvrir ce qui était peut-être le meurtre de son père. Et encore moins qu'il devrait prêter son image à la promotion de cette infamie. Il jeta un coup d'œil à sa sœur, qui continuait à pleurer, intarissable. Il eut envie de la secouer, de lui hurler dessus, de la faire avouer, de se révolter. Mais il se ressaisit. Il pensa à Cyril, à Oswald, à Terence. Les paroles du vieil humaniste lui revinrent en mémoire. « J'estime que la seule chose à faire pour un honnête homme est de se consacrer maintenant à la ruine de cette machine Léviathan et de ce gouvernement. » « Je suis sûre qu'Elsée approuvera votre démarche, » dit Abel en se rapprochant de Courcelles. C'est en fin de compte le meilleur parti à tirer de cette triste situation. Tandis qu'il prononçait ces paroles, Abel observa bien le visage du conseiller en communication et vit distinctement une expression de soulagement, fugitive mais intense, passer sur ses traits obséquieux. Elsée, en rentrant dans ses appartements attenant au bureau palatin, se sentait étrangement vidée, noyée et dévastée comme un paysage après une inondation. Elle avait enfin cessé de pleurer et ressentait le flottement léger, la sensation d'irréalité qui suivent les grandes effusions de larmes. Il lui paraissait étrange de se sentir vivante malgré tout. Elle éprouvait aussi une difficulté à penser, comme si son cerveau avait fini par se liquéfier et par couler lui aussi à travers les yeux gonflés. C'était sans doute mieux ainsi. Le chagrin pour son père semblait déjà usé au bout de quelques heures. Il s'était transformé en manifestation physique et ne la rendait plus triste. Elle était seulement épuisée. La pente qu'elle était en train de suivre et qui l'entraînait de plus en plus vite ne lui faisait même plus peur. Il lui semblait au contraire que le plus dur était fait. Terence d'abord, puis Francis. Elle avait détaché d'elle ces deux figures qu'elle avait chéries et vénérées. Aujourd'hui, ils n'étaient plus que des souvenirs un peu encombrants. Elle n'aimait pas penser à la responsabilité qu'elle avait dans leur disparition de la scène, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir presque absolument libre maintenant que cette disparition, pour le meilleur ou pour le pire, était consommée. Se séparer de ceux qu'elle avait aimés n'était pas différent de se séparer de sa propre fécondité. L'hystérectomie qu'elle avait programmée était le dernier pas vers un affranchissement de sa personne. Elle n'aurait plus ni père ni enfant. En coupant toutes les filiations passées et à venir, elle sortait résolument de la logique de reproduction de l'espèce pour entrer dans une rationalité nouvelle, libérée. Elle pénétrait dans un espace où elle deviendrait presque l'égale de Léviathan. Ses sacrifices volontaires étaient un tribut qu'elle payait pour sa métamorphose. Le berger ne pouvait être un mouton, se répétait-elle. Le troupeau humain devait être gouverné par quelqu'un qui avait largué les amarres avec l'humanité. Cette certitude se faisait plus forte à chaque séance de travail avec Léviathan. La machine lui faisait sentir à chaque instant la faiblesse de la raison humaine, et la honte de ses propres limites avait fini par rejaillir sur l'espèce tout entière. Le rapprochement avec les antispécistes n'était pas un geste purement politique. Si elle ne partageait pas la haine de l'humain qui les caractérisait, elle était maintenant convaincue de la supériorité de la machine. Léviathan souhaitait accélérer les mutations sociétales et législatives. Il considérait que les scrupules d'Elsée étaient une perte de temps inutile et préjudiciable. Il avait planifié une modification progressive de la Constitution qui, en quelques mois, donnerait à Elsée les pleins pouvoirs pour une durée illimitée. Et il avait donné ses directives de travail au tout nouveau service informatique gouvernemental créé par Elsée afin d'atteindre l'objectif qu'il considérait comme prioritaire, le contrôle du paradigme. Elsée ne savait pas à qui confier le poste de directeur des services informatiques. Elle pouvait évidemment demander à Léviathan de lui suggérer le nom de la personne la plus propre à assumer cette mission. Mais elle avait envie de témoigner sa gratitude à Abel et se demanda si un poste officiel était compatible avec la poursuite de ses études à l'Intelligency. Puis elle sourit, dans le noir, en se rappelant qu'elle n'avait plus à se soucier d'aucun règlement, puisqu'elle était en passe de réécrire tout ce qui existait.